Bien, bonjour à tous. Alors, on a le plaisir de recevoir Guillaume Bianco aujourd'hui, donc à l'occasion de la sortie de l'encyclopédie Curieuse et Bizarre par Billy Brouillard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, avant d'en venir un peu plus précisément sur cet album, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours et comment tu en es venu à la bande dessinée?
Alors, me retracer mon parcours, ouais, il faudrait au moins 2 heures là, non? Pour faire très rapidement, moi j'ai toujours aimé dessiner, à la différence de certains adultes qui s'arrêtent de dessiner en grandissant. Les dessinateurs de BD et les illustrateurs continuent à dessiner. Donc, j'ai toujours dessiné, je me suis orienté vers des études de mandarin, de chinois, parce que je voulais partir en Chine. J'étais très, très intéressé par la culture chinoise, les arts martiaux, la philosophie, tout ça. Et puis, durant mes études à Aix-en-Provence, j'ai rencontré Didier Tarquin et Christophe Arleston, qui ont toujours d'ailleurs un atelier qui s'appelle Gottfordom Studio, qui est devenu la rédaction de l'Enfeust Mag. Donc, au lieu d'aller à la fac, en tout bon cancre qui se respecte, je suis allé à Gottfordom Studio, j'ai commencé à dessiner dans le magazine, je me suis retrouvé aux éditions Soleil. J'ai fait mes armes aux éditions Soleil, j'ai commencé à faire de la BD humoristique pour animer l'Enfeust Mag, et puis petit à petit j'ai fait des albums sans vraiment chercher à en faire, enfin, disons que sans démarcher, parce qu'évidemment je voulais en faire, c'était ma passion. Et puis voilà, petit à petit je me suis retrouvé à faire Billy Brouillard aux éditions Métamorphose. Plus tard, voilà, j'ai rencontré Barbara Canepa et Clotilde de Vue. La collection Métamorphose s'est créée et c'est un espace qui me convenait un petit peu mieux. Et puis voilà, depuis je m'amuse comme un petit fou à animer Billy Brouillard et à parler de choses qui me passionnent, comme les êtres de la nuit, les fantômes, etc. Voilà un bref résumé.
Parfait. Et donc justement par rapport aux fantômes et à Billy Brouillard, donc est-ce que cette idée d'encyclopédie, elle est venue donc lors de la rédaction de la série Billy Brouillard, ou alors est-ce que c'est venu après, pendant, avant
Bah oui, c'est une bonne question, parce que c'est vraiment une question que je me suis longtemps posée. En fait, lors du tout premier Billy Brouillard, donc il y a quelques années maintenant, donc qui est un gros pavé un petit peu anarchique comme ça, bon, avec une cohérence dans l'histoire, mais qui contient plusieurs formes narratives, c'est ce qui en fait, je crois, son originalité. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. À la base, voilà, tout début, lorsque j'ai commencé aux éditions Métamorphose, on m'a dit, bon, alors que j'étais vraiment, enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un de bankable, de connu. Généralement, c'est le genre de proposition qu'on fait à des gens qui rapportent beaucoup d'argent, mais moi, j'en rapportais absolument pas. Et on m'a dit, bah, écoute, voilà, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu prends le format que tu veux, tu fais le nombre de pages que tu veux, tu fais exactement ce que tu veux, fais-toi plaisir, et t'es payé en plus. Donc je me suis dit, bon, c'est génial. Alors du coup, quand on vous dit ça, vous savez plus quoi faire. Moi, j'avais envie de faire de la BD, donc l'univers du Billy Brouillard était déjà en moi, tout était déjà là, mais rien n'était sur le papier. Alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais envie d'écrire des poèmes. Alors je me suis dit, bon, je me suis mis à écrire des poèmes autour du monde de Billy Brouillard. Ensuite, je me suis dit, oh non, les poèmes, ça me plaît pas, là c'est un petit peu trop prétentieux, je vais faire des espèces de bestiaires, de pages d'encyclopédie, de pages de vieux journaux du 19e avec des histoires bizarres, tout ça. C'est ce que j'ai fait. Ça me convenait pas tout à fait, donc je me suis dit, non, je vais plutôt faire un livre de bande dessinée, puis ça me satisfaisait pas pleinement. Bref, au bout d'un moment, j'avais plein de petits livres comme ça, et c'est Barbara Canepa donc qui m'a dit, bah, au lieu de faire plein de petits livres, tu mets tout dans un, et puis ça a donné Billy Brouillard. Donc tout ça pour dire que l'encyclopédie existe, c'était juste une forme narrative de Billy Brouillard, une des formes narratives qu'on trouve dans les premiers tomes. Donc ça existe depuis le début, mais j'ai toujours eu le souhait par la suite, une fois que le triptyque Billy Brouillard a été terminé, donc il y a vraiment 3 histoires fondamentales, enfin fondamentales qui représentent un peu le noyau de la série. Donc c'est le petit garçon qui croyait plus au Père Noël, sa rencontre avec la mort. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Je me suis mal réveillé. Le don de trouble vu, c'est sa rencontre avec la mort. Le petit garçon qui croyait plus au Père Noël, c'est donc des histoires de croix, des histoires de foi et de croyance. Et le troisième, c'est Billy Brouillard confronté à l'amour, le pire des monstres finalement, qui est le chant des sirènes. Autour de ça gravitent des albums. Il y a les comptines malfaisantes. Dans les comptines malfaisantes, ce ne sont que les livres de chevet de Billy Brouillard. Donc on comprend un petit peu sa personnalité au travers de ses lectures. Et ensuite, j'ai toujours voulu faire donc son encyclopédie, dont on voit les extraits dans les 3 premiers livres, c'est-à-dire un gros pavé, un gros livre, un gros grimoire qui rassemblerait toutes ses études, toutes ses analyses, toutes ses recherches, tous ses dessins, toutes ses aventures un petit peu rocambolesques, enfin toutes ses expériences sur le terrain, on va dire. Et bon, pour sortir une encyclopédie de 800 pages, format génial avec la couverture en cuir, bah, l'éditeur dit oui si tu veux, mais le problème c'est qu'au prix de vente, ça risque de coûter au moins 100 € ou voire plus. Donc on a dit bon ben voilà, faisons quelque chose de plus modeste, divisons l'encyclopédie en chapitres, qui seraient des petits albums qui seraient plus accessibles au lecteur aussi au niveau du prix. Et on va diviser ça par chapitre. Donc le premier extrait de l'encyclopédie, ça s'appelle Les Fantômes, c'est sur les fantômes, c'est le volume 1. Le volume 2 sera, je pense, sur les chats. Et le 3 sur les sorcières. Moi, ce que j'ai. Voilà, ce sont mes priorités, voilà.
Et justement, au niveau des thématiques, bon, là, on est sur les fantômes. Est-ce que c'est toujours. Ces univers fantastiques, est-ce que ce sont des univers qui t'ont toujours attiré
Bah oui, bien sûr, c'est fascinant. Hein. De toute façon, tout ce qui fait peur, tout ce qui intrigue, tout ce qu'on ne connaît pas. Développe le fantasme. Le fantasme, d'ailleurs, la racine, ça a le mot fantôme aussi. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien, c'est que lorsqu'on. Un fantôme, c'est-à-dire, tiens, un fantôme, qui c'est ce fantôme? Pourquoi il est mort? Déjà, il y a une vie après la mort. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il souffre pas? Ça fait travailler l'imaginaire. C'est ça qui est superbe. Puis, comme Billy Brouillard, j'avais un petit. Enfin, moi aussi, j'ai perdu mon chat quand j'étais petit à la campagne. J'avais, comme lui, un sparadrap sur le front, une petite sœur que je martyrisais. Et j'habitais une vieille maison, tout en haut d'une vieille maison, là, qui ressemblait, aux couleurs ressemblait à une espèce de vieille tour. Maison qui avait connu la guerre, il y avait des impacts de balles sur la. Enfin, plein de petites choses qui m'impressionnaient. Et puis, notre chambre, dont je la partageais avec ma sœur, était à côté du grenier qui donnait sous le toit de la maison, donc, et qui était une immense salle obscure. Donc la nuit, évidemment, à la campagne, loin de la ville, on entend des bruits, et l'imagination d'un petit garçon et d'une petite fille de 8 et de 3 ans, bah, ça va vite. Donc les fantômes m'ont toujours fasciné, et puis c'est quelque chose qui... obscur, mystérieux, qui moi je sais pas, c'est le petit frisson à la british, là, les histoires à se raconter au coin du feu. Moi je trouve que c'est le côté cosy que peuvent avoir les Anglais, moi j'adore ça, quoi. Donc
c'est vrai qu'on retrouve un peu cet aspect là dans la série Billy Brouillard en général, c'est-à-dire avec des inserts de pages un peu qui font un peu grimoire,
oui, voilà, oui.
Là, les références au spiritisme, enfin tout ce.
Oui, en fait, c'est
une histoire aussi finalement fantômes et du fantastique.
Oui, voilà, c'est un esthétisme qui plaît à la directrice de collection, aux directrices de collection, hein, Clotilde Vue et Barbara Canepa. Chez elle a vraiment des vieux livres de famille qui datent même du 18e. Elle a toujours grandi dans des décors un petit peu baroques. On aime cette idée du vieux grenier, de la poussière sur le livre, le vieux livre avec des notes dedans qu'on retrouve. On aime bien ce rapport au bouquin, moi d'un côté j'aime bien le livre jetable qu'on peut mettre dans la poche et amener à la plage et passer à un copain, si le format manga très traditionnel, très cheap, mais j'aime aussi paradoxalement le côté très beau livre, beau papier, belle tenue, l'odeur, il y a un rapport important. Alors j'ai rien contre les ordinateurs, mais je préfère, peut-être que c'est parce que je suis né fin des années 70, mais j'aime l'idée de me mettre dans mon lit un soir où il pleut et d'ouvrir un bouquin et puis d'allumer ma lampe de chevet un peu jaune, pas la lumière blanche, c'est trop aveuglant. Et puis je sens déjà l'odeur du papier, le bruit des pages qui se tournent. Je trouve qu'on est déjà dans un rapport beaucoup plus charnel et intime. Et pour moi, une histoire, ça commence déjà sur la couverture. Donc c'est pour ça qu'on soigne autant les couleurs et les. Parce que c'est vraiment un hommage à ce qui nous plaît, quoi, ce qui nous a plu enfant. Et c'est la vocation de Canepa et de Vue. Que de transmettre cet amour du livre, en fait, qui commence à l'extérieur et dans son esthétisme, mais il faut qu'il y ait une raison. Il commence à raconter son histoire à partir du moment où on le trouve sur l'étagère ou chez le libraire, quoi. C'est un petit peu le but de la collection Métamorphose, en fait.
Oui, c'est un objet vivant, finalement.
Voilà.
Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, justement, d'avoir un objet aussi vivant et de traiter finalement un peu de la mort et de telle façon.
Belle formule. Ben moi, je trouve que la vie, c'est le mouvement avant tout, hein, c'est le cycle, c'est-à-dire la vie, la mort, c'est pas l'arrêt, à condition que l'on croit qu'il n'y a rien après la mort. La mort, ça bouge beaucoup, hein, il n'y a qu'à voir la décomposition d'un cadavre en accéléré. Je vous assure que ça vit là-dedans. La mort n'existe pas, en fait, je pense, fondamentalement. C'est qu'une transformation d'état, ou c'est bien spirituel que physique, hein, je sais plus qui c'est qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc pour moi, la mort, c'est pas immobile, en fait,
ça fait partie d'un cycle, finalement.
Voilà, c'est très toi qui aimes bien la culture japonaise, c'est très taoïste aussi, quelque part,
effectivement, hein, avec le tout est un cycle, et
voilà, c'est un éternel recommencement. Après, je pense que dans la société occidentale, et surtout avec l'Inquisition il y a quelques siècles, où on nous a vraiment fait peur, et puis bon, attention, il y a l'enfer après, puis après on a eu une espèce de truc de on est allé contre ça, d'athéisme total ou très, très Descartes, tout ça, donc ça a développé certaines angoisses chez moi en tout cas, puis bon, sans parler de croyances, de religion ou quoi que ce soit, je pense que tout est parfait, que tout est bien, et la mort n'est pas l'idée qu'on s'en fait, ça j'en suis convaincu, c'est-à-dire c'est pas une grande faucheuse, certes, mais c'est pas non plus... On confond souvent la mort et la déchéance et la maladie, c'est bien différent. Moi je vois la mort vraiment comme quelque chose de libérateur, ce qui me fait peur c'est les hôpitaux, c'est la déchéance et c'est la maladie et la souffrance qui me fait peur, la mort c'est la fin de la souffrance. Je pense que c'est un retour initial, prénatal presque. Que les gens qui ont peur de la mort, il faut leur dire « mais tu avais peur avant de naître », ça les rassure tout de suite.
Effectivement. Et ça tourne un peu autour de la mort, donc les fantômes, effectivement.
Oui, c'est mon obsession. Oui.
Et donc il y a aussi les peurs enfantines, finalement. Alors est-ce que c'est pas un moyen aussi d'exorciser les peurs enfantines un peu?
On sort jamais des peurs de son enfance. Hein. Moi j'aime bien une phrase de Renaud dans une des chansons, qui s'appelle le sirop de la rue, dit après l'enfance c'est quasiment fini, c'est à dire que tout prend son essence dans l'enfance en fait. Moi mes plus beaux souvenirs, c'est mes plus belles émotions, mes plus belles peurs, je m'en souviens, enfin ce sont les premières évidemment, donc c'est celle de l'enfance, hein, aussi bien Noël, la joie d'avoir des cadeaux, c'est l'enfance, la première fois qu'on tombe amoureux d'une petite fille à l'école, c'est l'enfance, c'était à l'âge de 7 ans, c'était enfin, je me souviens pas, j'ai aimé différemment, mais je me souviens pas avoir été aussi bouleversé par ce sentiment, en fait. Et je sais même plus quelle était la question. Et les peurs, c'est pareil, voilà. Les peurs, c'est pareil. Moi, j'ai encore des peurs terribles, mais je crois qu'elles prennent leur racine dans l'enfance, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'on est, c'est pas moi qui l'ai dit, mais qu'on est une somme de d'âge et d'état et de moments, hein. On se transforme pas d'enfant à adulte, d'adulte à enfant, non, d'adulte. Je suis mal réveillé d'enfant à adulte du jour au lendemain. Ça se fait par étapes. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai pas 37 ans, j'ai 1 an, plus 2 ans, plus 3 ans, plus 4 ans, plus 5 ans. Tous ces personnages sont en moi. Et je pense qu'au plus on vieillit, au plus on a tendance à retomber un petit peu en enfance. Et donc, oui, moi, je pense que le lien fondamental, enfin, la racine de mes peurs, elle vient de l'enfance. Quoi. Les traumatismes et les névroses viennent de l'enfance. Ça, c'est... Il faudra demander à Sigmund, il confirmera. Ça, son fantôme, il pourra confirmer.
En faisant une petite séance de spiritisme, comme expliqué dans l'album.
Voilà.
Et par rapport à la façon dont tout ça est représenté, finalement, c'est très varié. On retrouve l'esprit de la série, hein, Michel Brouillard, avec beaucoup de documents, de petits encarts, un peu de poésie par moment, de jolies rimes. Et est-ce que c'est pas trop compliqué de cadrer tout ça, parce que c'est très foisonnant finalement?
C'est vrai que c'est dur de se limiter. Alors il y a des gens qui pensent que c'est difficile de trouver des idées. Moi les idées ça me sort de la tête à longueur de temps. Et en fait ce qui est très frustrant c'est que je suis obligé de me limiter, parce que déjà je suis un peu dispersif. J'ai envie de faire plein de choses, mais bon le temps est court et compté aussi, donc. Je me limite. Alors j'ai toujours tendance à être foisonnant, c'est-à-dire à lâcher plein de trucs, à dessiner plein de trucs. Et après, il y a un travail de maquette, donc qui est assuré par toujours Barbara Canepa et Jean-Luc Deglin, qui m'aide beaucoup, qui m'assiste beaucoup, et c'est lui qui fait un petit peu la synthèse. Alors Barbara me censure, me dit tiens ça c'est pas bien, refais-le. Là il y a trop de choses. Clotilde Vue aussi. Alors c'est dommage, ce que je disais hier à un de tes confrères. J'avais fait une sorcière là, qui me plaisait beaucoup, c'était un personnage que j'avais vraiment envie de développer, même qui pourrait faire l'objet d'un spin-off, et qui était à la fin d'une des histoires qui venait en coupure, qui venait en clôture de chapitre, mais vraiment un personnage qui me plaisait beaucoup. Et à la dernière relecture, il y a Clotilde Vue qui me dit « Ton personnage de sorcière est vraiment génial et tout, mais il n'a rien à faire là, donc... » j'ai pas accepté tout de suite, puis j'ai essayé de voir le chemin de fer, c'est-à-dire le livre... Sans ma page de sorcière, ma sorcière, effectivement, ça c'était beaucoup plus fluide pour le lecteur. Donc voilà, il y a des gens derrière qui structurent tout ça. Moi, je suis incapable de structurer. Je peux un peu structurer quand même. Je sais à peu près où je vais. Mais ça a été fait. C'est surtout Barbara Canepa et Clotilde Vue qui m'ont coupé les trucs, qui m'ont dit de refaire, qui m'ont dit non, pas comme ça, pas comme si. Pardon. Et Jean-Luc Deglin, après le maquettiste, qui pagine, qui fait la pagination un peu plus. Moi, je suis le petit garçon qui fait plein de dessins de partout et d'écrire de couleurs, puis après, eux, ils choisissent lesquels garder.
Donc, bon, au final, on a on a un album qui est foisonnant, il y a beaucoup de choses sur les fantômes, et moi j'ai trouvé un petit côté alors, au niveau des inspirations, de tes inspirations et influences, quels sont les auteurs, est-ce que moi j'ai retrouvé un petit côté Mizuki Shigeru par exemple avec les fantômes japonais et tout ça, mais
D'ailleurs j'avais acheté le livre au Japon, il est très très beau, il a fait un bestiaire noir et blanc, là j'en ai mis à deux, j'en ai trouvé rapporté deux, il y avait les monstres et les fantômes, magnifique.
Il y en avait un peu plus,
c'est l'auteur de
Gegege no Kitaro et Nonomba.
Bah alors j'avais décidé le premier Billy Brouillard, je suis allé au Japon et j'ai pu un copain qui m'a dit tiens voilà le Billy Brouillard japonais, puis il m'a mis donc Nene Go Kitaro
Gegege,
voilà, je suis désolé j'arrive pas à prononcer,
c'est pas grave,
et je me suis dit tiens voilà, après je me suis renseigné sur ce monsieur après coup, et je me suis dit tiens il y a vraiment un lien de parenté alors que je
c'est assez étonnant moi en tant que lecteur du
j'adore mais je connais mal
finalement
Mizuki, voilà, chercher l'auteur.
En tant que lecteur de Mizuki, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec toute l'influence qu'il aura eu sur la façon de représenter les monstres japonais.
Oui, puis sa localité, quoi. C'est le maître du yokai, quoi, avant tout. Et puis voilà, il parle de sa mythologie à lui, de sa campagne, de... Oui, non, c'est vrai. Hein, c'est un maître, donc je le connais mal. J'ai quelques livres chez moi et la comparaison me fait évidemment plaisir.
Mais c'est vrai que voilà, c'est finalement on a un peu les mythologies
européennes
qui sont remises un peu.
Voilà, après lui, Mizuki, je pense qu'il est quand même assez documenté et qu'il parle vraiment de vraies choses de son terroir. Moi, je suis influencé par la Provence, même si ça ne soit pas tout de suite. Mais j'invente pas mal aussi de fantômes, je fais des mixtes, j'aime bien brouiller les pistes, il y a des vrais défauts, je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'à partir du moment où on y croit, ils existent. Mais oui, quand si tu veux parler des influences, il y a évidemment des auteurs de bande dessinée, des illustrateurs, il y a aussi des chanteurs, tu vois, par exemple, on trouve pas tout de suite la référence, mais il y a Georges Brassens, moi, qui m'inspire beaucoup dans la manière de raconter les choses ou de faire transparaître un côté un peu rétro comme ça. Après il y a des auteurs comme les Roald Dahl, les gens comme ça aussi qui m'influencent. On voit pas tout de suite l'influence directe, tu vois, mais oui, Mizuki c'est une superbe comparaison. Mais curieusement je le connaissais pas quand j'ai commencé Billy Brouillard, donc j'étais très content de voir Mizuki. Ouais.
Et du coup c'est j'ai perdu la question.
Elle va revenir.
Elle
c'est
va revenir.
Fantôme qui l'a gobé.
Il l'a gobé en passant. Et donc c'est pas grave. Je vais poser une autre question du coup, si elle me revient.
En fait, il faudrait que je te répète, vous allez voir une technique incroyable. Je vais faire un re-ring, un reload. Je vais te répéter ce que je disais et je suis sûr qu'elle va te revenir.
C'est bien possible.
Alors je disais. Non, en fait, il y a aussi d'autres auteurs mais qui m'influencent, pas seulement des auteurs de BD, aussi les Roald Dahl.
Ouais. Donc justement au niveau des influences,
ça t'est revenu.
Effectivement, ouais.
T'as vu, c'est j'en ai fort. Hein.
C'est très fort. Donc au niveau des influences, donc je rebondis un petit peu. Ça, c'est par rapport à la documentation. Est-ce que ça a demandé beaucoup de documentation pour certains fantômes notamment, ou alors quelques fantômes dont tu te souviens vaguement et
un peu les deux. Moi, j'ai horreur de me documenter. Tu vois, si par exemple je dois dessiner un placard, toujours Barbara Canepal, bon, je dessine un placard comme je l'imagine. Barbara Canepal me dit, mais regarde comment elle fait un placard, je veux dire. Donc je vais sur Internet, aujourd'hui en plus on a Internet, on a la bibliothèque à la maison, qu'à l'époque il fallait aller à la bibliothèque pour les photocopies. Donc voilà, je regarde comment elle fait un placard, je le recopie un peu, je le fais un peu à ma manière. Donc moi j'ai horreur de me documenter, par contre, je sais pas comment te dire, quand un sujet m'intéresse, j'ai pas l'impression de me documenter, j'écoute parler ou... Je regarde, je me documente en fait, mais sans me rendre compte que je travaille, si tu veux. Et après, je fais une espèce de soupe dans ma tête et puis je retranscris. Après, je me dis, mais c'est où j'avais vu ça déjà? Ah, oui, d'accord, j'ai un bouquin, je vais regarder. Certains sont... La documentation se fait en amont, mais vraiment de façon ludique. Et je ne me dis pas que je vais forcément faire un livre, si tu veux. Après, il y a une espèce de temps de réflexion, de maturation. Oui. Et après, je ressors le truc, si tu veux. Et après, si j'ai besoin de savoir comment dessiner un placard ou savoir comment s'appelait le fantôme dont on parle dans tel livre, là, je vais regarder sur Internet, je vais faire une petite recherche. Tu vois. Mais bon, ce n'est pas vraiment de la documentation. Quoi. C'est plus une recherche Internet, j'appelle ça. Parce que se documenter, tu imagines un vieux rat de bibliothèque avec des lunettes qui prend des échelles et qui reste pendant des nuits à contempler des grimoires anciens. Là, on fait, alors, château hanté, ok, un château c'est dessiné comme ça, bon d'accord, t'as la liste des fantômes, t'as qu'à recopier, tu fais un livre. Donc ouais. Là, je préfère.
C'est mieux d'avoir la période de digestion finalement qui permet de donner sa version des
choses. J'aime bien, c'est comme un souvenir, tu vois. C'est par exemple, tu te racontes une anecdote que j'ai vécue, tu parlais de Japon, au Japon il y a 5 ans. Je vais forcément l'embellir, tu vois. Dans les faits, je pense pas que ça soit aussi. Toi, j'aime bien le travail de l'imagination. C'est comme le dessin. J'aime pas dessiner d'après nature, tu vois. Même si mon dessin est plus moche ou moins juste, j'aime bien me souvenir d'une scène, puis la retranscrire, tu vois. Le cerveau fait son travail, et puis c'est ce qui donne la fantaisie et le style.
Exactement. Je trouve aussi, c'est ce qui donne le.
Enfin, j'aime. Moi, je travaille comme ça.
Le cachet, finalement. Et là, c'est ta patte personnelle finalement qui vient se.
Voilà. Enfin, moi, je pense que je sais plus qui c'est qui disait le style, c'est les défauts en fait. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut pas les gommer, et puis voilà, et puis il faut pas faire ce qu'on aime pas. Moi, j'aime pas me documenter, j'aime pas dessiner les voitures ou les angles droits. Je dessine pas de cases ni d'angles droits dans cette BD. Pas de voiture non plus, et puis je me documente le moins possible. Bon, un petit peu quand même, parce qu'il faut pas, quand on parle d'un sujet.
Sans rien en connaître.
Voilà, spécifique. Après, il y a les spécialistes qui te disent bon, là, tu peux pas te laisser dire ça, c'est n'importe quoi. Enfin, le moindre des choses, c'est quand même. C'est comme quand t'écris un mot, la moindre des choses, c'est de l'orthographier convenablement. Voilà.
Donc, bon, ouais, toujours est-il qu'on a effectivement donc une BD, une série très personnelle. Et qu'on a hâte de lire enfin pour ma part j'ai hâte de lire la suite. Et
c'est gentil, merci.
Quels sont tes projets du coup?
Là je t'avoue, je suis pas paumé, mais je suis un peu épuisé en fait, et j'ai besoin d'y réfléchir. Je me dis tiens, qu'est-ce que même si l'album est plus fin que d'habitude, l'Encyclopédie des Fantômes, il a représenté, je pense, autant de travail que les autres, parce que je te dis, je l'ai recommencé plein de fois, on a éliminé plein de pages. Ça n'a pas été facile, et je pense que je n'en suis pas sorti indemne en fait. Puis je fais un peu trop de choses, je suis pas mal dispersif. Là, j'écris actuellement le tome 6 d'Ernest et Rebecca, qui est une série jeunesse que je fais pour un dessinateur qui s'appelle Antonello D'Alena, qui doit sortir, on est déjà en retard. Donc j'écris le scénario de ça. Ça, c'est dans les priorités. Il faudrait que je continue Zizi Chauve-Souris aussi, que j'ai mis de côté pour le journal de Spirou, que je fais avec Lewis Trondheim. Et puis, on a sorti. Peut-être travailler sur mes carnets secrets, là, qui est un carnet secret aussi qui est sorti dans la collection Shampoing, donc il y a ça en cours aussi. Peut-être c'est pas encore signé, mais c'est en bonne voie, un petit projet très simple, très naïf, très pour les tout petits enfants, dans la collection Petit Glénat, avec mon frère, donc Thomas Bianco, qui a écrit le texte. C'est pour Noël prochain, mais il faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis bon, ben, la suite des encyclopédies Billy Brouillard, il y a encore tellement de sujets à traiter, donc. Mais ouais, j'avoue que ça donne un peu le vertige, tous ces trucs. Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir qu'une série pour ne pas me disperser, j'ai l'impression de faire trop de trucs. Donc oui, plein de projets, quoi. Puis puis partir en Écosse, justement, tu vois, pour voir si ce que j'ai dit sur les fantômes est vrai. Donc je pense qu'on va partir en Écosse.
Se mettre un peu dans l'ambiance.
Pour se documenter.
Et en cause aussi. Bien, bah merci en tout cas pour toutes ces passionnantes réponses. Et
merci pour ces belles questions.
Au plaisir de te revoir pour un prochain album.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci et donc bonne continuation.
Au revoir.
Au revoir.